Une ancienne maison détruite par le feu à la vallée du Tir. Près de 20 pompiers sont intervenus pour contenir les flammes qui menaçaient de s'étendre à une habitation voisine. Le vote pour la présidence des LR se poursuit. Le scrutin a débuté pour nous la nuit dernière à 3h du matin. Même si le vote se fait de manière dématérialisée, une permanence est proposée à Nouméa aux 13 rue de Sébastopol jusqu'à 20h. En métropole, les députés ont approuvé la nuit dernière pour nous la création d'un droit à l'aide à mourir. Il s'agissait d'un amendement du gouvernement. À l'étranger, Donald Trump s'entretiendra demain par téléphone avec Vladimir Poutine. Seront évoqués l'arrêt du bain de sang entre Russes et Ukrainiens, mais aussi le commerce. Le sport, du football, nous verrons en détail les résultats de la 34e et dernière journée de Ligue 1 sur le territoire. Il y avait du cyclisme avec le Grand Prix Roger Larocque à Ducos. Bonjour à tous. Une maison entièrement détruite par les flammes la nuit dernière dans la deuxième vallée du Tir. Il s'agissait d'une ancienne bâtisse en bois abandonnée située au numéro 16 de la rue Paul Bert, déjà partiellement incendiée l'année dernière. À l'arrivée de la vingtaine de pompiers sur les lieux aux alentours de 3h du matin, le bâtiment était déjà parti en fumée. Toutefois, les flammes menaçaient de s'étendre aux habitations voisines. Après 3h de lutte contre l'incendie, les soldats du feu ont réussi à contenir les flammes avec l'aide des forces de l'ordre. Aucune victime n'est à déplorer. Depuis les violences insurrectionnelles de mai dernier, la vallée du Tir a été particulièrement touchée par des incendies d'origine volontaire. Les pompiers ont noté une recrudescence des actes malveillants la nuit dernière, avec une quinzaine de départs de feux de poubelles et de branchages, notamment à Caméré, Tindu, Montravel et Magenta-Tour. Jour d'élection pour les adhérents du parti Les Républicains. Les militants doivent choisir entre Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et Laurent Wauquiez, député à l'Assemblée nationale, pour être à la tête du parti. Et en Calédonie aussi, les électeurs peuvent exprimer leur voix, Charlotte Coulson.
Qui pour succéder à Éric Ciotti? C'est la question que se posent aujourd'hui près de 122 000 électeurs adhérents du parti Les Républicains. Le scrutin a débuté la nuit dernière pour nous, à 3h du matin. Les démarches sont entièrement dématérialisées, ce qui peut parfois poser problème pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique. En Nouvelle-Calédonie, c'est bien sûr le rassemblement qui se fait le relais des LR. Le parti est mobilisé pour porter assistance aux personnes qui rencontrent des difficultés. Jordan Courteau, secrétaire général du rassemblement.
C'est sûr que si on a un petit peu la maîtrise de l'outil, c'est facile à voter parce qu'il faut simplement avoir un email et un numéro de portable. Pour certaines personnes, c'est un peu plus compliqué, mais on a fait du travail pour identifier les personnes. On a tout type de problèmes, évidemment. On a le mail qui est tombé dans les spams, ça c'est un grand classique qui arrive à tout le monde, même à moi. On a effectivement des fois des coquilles sur les adresses mail ou les numéros de téléphone. Et c'est là que nous, on est en relation avec Paris, on débloque ces situations pour les gens, pour qu'ils puissent voter.
Une aide qui est plus que bienvenue pour ces adhérentes qui ont rencontré quelques soucis en essayant de voter ce matin.
Écoutez, je suis venue ici aujourd'hui parce que je trouve que la permanence, tout le monde est sympathique. Au lieu de faire ça à la maison tout seul, eh bien, on est venu ici pour, c'est convivial, donc voilà. C'est pour nous aider aussi un peu quand même, hein, parce que peut-être pas très doué.
Alors, je vous récupère votre numéro d'adhérence, c'est ce qui est chez nous.
Oui.
Là, vous allez recevoir un SMS.
Je manipule pas du tout ou pas bien, donc j'avais besoin d'être aidée. Heureusement qu'ils sont là, hein, parce que je votais pas sinon.
Vraiment. Madame Boudin a voté.
Ah, c'est formidable.
C'est parfait, merci beaucoup.
Ah, bah, je vous remercie beaucoup. Hein. Ah, bah, moi, il y a longtemps que j'ai envie de voter pour lui, donc c'est pas de problème. Hein. Je trouve qu'il essaye de se battre un peu pour la France, qui en a besoin. Voilà, c'est pour ça. C'est mon choix.
Les élections s'achèvent cette nuit à 3h du matin. La permanence du rassemblement se tient à Nouméa, au 13 rue de Sébastopol, jusque 20h. Un numéro est également disponible en cas de problème. Il s'agit du 51 91 65. Le 51 91 65.
Et une autre élection maintenant qui s'est déroulée hier au doc socio-culturel de Païta. Milakulo Tukumuli a été reconduit à la tête de l'éveil océanien lors du 3e congrès du parti. Seul candidat à sa succession, il n'y avait pas vraiment de doute quant à sa réélection. Il a finalement été réélu à l'unanimité. Une satisfaction pour Milakulo Tukumuli, même si c'est une très lourde responsabilité qui l'attend.
Le comité directeur, qui est l'organe décisionnel du mouvement, à l'unanimité, ont renouvelé leur confiance pour ce congrès. Et donc, sans surprise, l'Assemblée générale du mouvement, qui s'est réunie ce samedi, à l'unanimité, ont accepté de me reconduire à la présidence du mouvement. C'est une très lourde et très grande responsabilité qu'il faut prendre avec beaucoup d'humilité, surtout dans le contexte particulier que vit la Nouvelle-Calédonie, où on n'a pas trouvé encore de solution politique pour la sortie de l'accord de Nouméa.
À noter qu'au cours de ce congrès, le bureau du parti a également été désigné. Vaïmoa Mouliava et Velma Falaeo sont donc tous les deux vice-présidents du parti. Petelo Sao conserve son poste de porte-parole et Edi Falaeo a été nommé secrétaire général. Politique toujours. Élu en 2019 maire du Mont d'Or, Eddy Le Courrieux a annoncé le 8 mai dernier qu'il démissionnait de ses fonctions. Invité vendredi midi d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, il est revenu, Jean-François Baudin, sur les raisons de cette décision.
Eddy Le Courrieux avait choisi la date symbolique du 8 mai pour annoncer sa décision parce qu'il voulait le faire après s'être incliné devant le drapeau et le monument aux morts pour honorer la République. Il invoque, on le sait, des raisons personnelles liées à sa santé pour expliquer sa démission. C'est aussi, reconnaît-il, parce qu'il n'a plus l'énergie nécessaire pour s'occuper de la commune.
Je pense qu'il y a quand même un peu de ça, même si je veux pas l'avouer, hein. Je suis un homme combatif. Mais c'est vrai que 6 années de mandat, avec toutes les galères qu'on a eues, le Covid, les référendums, la crise économique, la crise sociale, l'USUP, la crise météorologique, enfin, je crois qu'on a tout eu dans ce mandat. Donc je pense quand même que ça a été un peu usant. Et c'est vrai que le fait d'avoir ravagé notre pays, ces émeutes, je me disais, nous, moi j'ai 63 ans cette année, on a participé dans les années 80, à la reconstruction du pays. On a participé à la reconstruction avec les provinces qui arrivaient. On a participé, nous, à notre manière, à l'émancipation déjà de notre pays, hein, de la Calédonie moderne. Et je me disais, oh là là, il faut encore recommencer, quoi. Et c'est vrai que je me suis dit, écoutez, peut-être place à quelqu'un de nouveau, peut-être place à quelqu'un de plus jeune ou de plus compétent ou qui a les capacités de se donner à fond.
Difficile de dresser un bilan de son action, mais Eddy Le Courrieux, qui a commencé comme policier municipal avant d'être chargé de l'urbanisme et de travailler successivement avec Victorin Boeva, Pierre Froger et Éric Guay, voulait apporter de l'humain dans sa fonction. Et il y a une méthode et un style Le Courrieux.
Les élus, je crois qu'on a, au bout de 6 ans de maire, je crois qu'ils commencent à apprécier ma méthode, alors que je suis, vous savez comment je suis, hein, je suis un dur, je suis un gueulard, je suis tout ce qu'on veut d'ailleurs, mais je parle mal. Mais c'est vrai qu'il y a du cœur et je crois que les gens, au bout de tout ça, ils retiennent ça. Alors je les rassure parce qu'il y aura encore du cœur dans ce qui va arriver derrière.
Et c'était Elisabeth Rivière, actuelle 4e adjointe au maire, qui devrait succéder à Eddy Le Courrieux lors du conseil municipal qui se réunira mercredi. Impossible, quand on parle du Mont d'Or, de ne pas évoquer la tribu de Saint-Louis qui coupe la commune en deux. Parmi les regrets exprimés par Eddy Le Courrieux, celui de ne pas avoir pu rencontrer le président de la République pour le sensibiliser à la situation du Mont d'Or et à la nécessité d'une route de développement vers le Grand Sud. Aujourd'hui, les forces de l'ordre sont très présentes sur la RP1, preuve que la situation n'est toujours pas normalisée, mais plusieurs solutions sont à l'étude, et notamment un projet de marina sur le Vallon d'Or.
On travaille avec la province, hein, je remercie Sonia Baquès, mais on travaille sur un projet de marina sur le Vallon d'Or, projet d'1,5 milliard, 2 milliards, pour faire l'accostage de grosses unités, mais en même temps de mettre en place une darse pour pouvoir protéger ces bateaux en tout temps, pour avoir cette solution de repli, et puis surtout qui sera un pôle de développement, pôle de la mer sur la partie Vallon d'Or, Mont d'Or Sud, et puis surtout l'île Obaï qui a un potentiel exceptionnel. Donc on travaille sur cette solution-là, mais sur la route, eh ben non. Non, la route en est là. J'allais dire, c'est notre croix, mais elle commence à être bien lourde.
Et le maire du Mont d'Or regrette que toutes les tentatives pour développer Saint-Louis aient été empêchées parce que la tribu a toujours été instrumentalisée.
Toutes les infrastructures, les grosses infrastructures qu'on a proposées, elles n'ont pas eu lieu. On a toujours tout fait pour casser la dynamique d'aller développer Saint-Louis. Pourquoi ? Parce qu'on veut que Saint-Louis, ça reste une espèce de bras armé du combat, de la lutte pour l'indépendance. Alors que les gens, la plupart, ils ont envie de vivre dignement. On participe aux messes ensemble, on va aux enterrements, on va aux fêtes coutumières, etc. Les gens ont envie de vivre leur vie. Mais derrière, il y a une espèce de mainmise par certains pour utiliser Saint-Louis. Les jeunes, principalement, aujourd'hui, il y a plus de 60 personnes de Saint-Louis, plus de 60 personnes qui sont incarcérées pour des peines longues. Mais vous imaginez, on va faire sacrifier des familles ou des gamins pour des causes. Mais ce n'est pas ceux qui secouent le cocotier qui vont en prison, hein. C'est les gamins. Moi, je suis consterné par ça. Et quand ils ressortent, malheureusement, parce que les conditions de détention sont telles, quand ils ressortent, c'est pire.
Mais Eddy Le Courrieux ne veut pas admettre que l'on ne peut rien faire pour sortir de cette situation. Selon lui, il faut poursuivre, il faut maintenir le lien. C'est la doctrine qu'il a toujours voulu appliquer pour Saint-Louis, même s'il se heurte à une certaine opposition.
C'est installé au sein de mon conseil, ou c'est installé dans les médias, un discours, ils ont tout pété, ils n'ont qu'à crever. Voilà. Et je le dis crûment, mais je veux dire, ils ont tout pété, on ne sait pas c'est qui, et ils n'ont qu'à crever, on ne sait pas c'est qui. Donc moi, je n'ai jamais été pour ces discours, je trouve ça d'une banalité, d'une inutilité. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont cassé, et ben ils iront devant la justice. Et il y a des gens comme tout le monde qui ont le droit de vivre. Et moi, c'est cette doctrine-là que j'ai employée jusqu'à aujourd'hui. Il faut maintenir le lien.
Depuis toujours, Eddy Lecourieux a été un militant et un élu du Rassemblement. Il revendique cette fidélité à son parti, à ses convictions et à ses valeurs.
C'est la France aujourd'hui qui réunit toutes ces communautés du Pacifique qui vivent là, les Wallisiens, ceux qui sont arrivés avec la mine, les Chinois, les Japonais, tous ceux qui sont là, je veux dire, c'est le pavillon bleu-blanc-rouge qui les maintient ici. Et moi, j'y crois. Comme je crois dans nos amis indépendantistes, je crois dans leurs valeurs humaines, je crois dans leurs valeurs culturelles. Moi, je crois dans la valeur du pardon, je crois dans les valeurs du manou qui est posé par terre, mais pas avec une parole de mensonge, avec une parole de vieux, une parole vraie. Moi, je crois à tout ça. Et il n'y a aucune raison que, justement, on ne trouve pas cet accord si on concilie tout ça.
Le maire du Mandant reste résolument optimiste et il rappelle que les Calédoniens ont toujours été forcés de trouver un accord. Il est convaincu que ce sera le cas cette fois-ci encore, même s'il est surpris par l'attitude de Manuel Valls et opposé, bien sûr, à son projet d'indépendance association.
Une interview d'Eddy Lecourieux qui sera rediffusée ce soir, juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Midi passé de 11 minutes. Première pause avant de passer à l'actualité nationale et internationale.
Cure Essentielle, l'expert des huiles essentielles, s'engage dès aujourd'hui à vous offrir le meilleur du bio au meilleur prix pour votre santé et votre bien-être. En direct de nos producteurs locaux, les huiles essentielles Cure Essentielle sont certifiées 100% bio, pures et naturelles. Cure Essentielle, l'efficacité à l'état pur.
Le recensement touche à sa fin. Vous n'avez pas été recensé? Appelez le numéro vert au 05 20 00 ou signalez-vous sur Facebook IZNC. Aujourd'hui, je compte pour demain.
Brrr, il commence à faire frais. J'aurais bien besoin de nouveaux vêtements chauds. Ne tardez pas. Jusqu'au 25 mai, direction Gémeaux pour y découvrir la nouvelle collection hiver qui réchauffera toute la famille à petit prix. Sans oublier les idées cadeaux pour la fête des mères.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
Excellent début d'après-midi. La suite d'Info Weekend, on retrouve Léana Colombo.
Et en métropole, les députés ont entamé la nuit dernière pour nous l'examen du texte sur l'aide à mourir. Après avoir adopté à une large majorité celui sur les soins palliatifs, un vote solennel sur chacun de ces textes est prévu dans 10 jours. Les débats qui ont repris sont compliqués parce que le sujet divise. Maïalène Trémollet est pour Europe 1.
Oui, si dans l'ensemble, les discussions ont eu lieu ces derniers jours dans un hémicycle serein, la question de la suite reste dans toutes les têtes. Puisque si les partisans de l'euthanasie œuvrent à créer des ponts entre les deux textes, insistant sur leur complémentarité, les opposants à l'aide active à mourir font au contraire tout pour préserver les digues existantes entre les deux propositions de loi. L'objectif, obtenir un texte sur les soins palliatifs indépendants et enterrer celui sur l'euthanasie et le suicide assisté. Alors désormais, les députés se préparent à des discussions animé dans un hémicycle très partagé où aucune consigne de vote n'a été donnée par les partis politiques et où plus de 100 députés, pour beaucoup issus du bloc central, sont encore hésitants sur leur vote, préférant attendre la fin des débats pour se prononcer. En clair, tout est possible selon Annie Vidal, la rapporteure du texte sur les soins palliatifs qui insiste. Il est difficile de faire des pronostics, ça dépendra surtout de l'équilibre du texte, mais ce qui est sûr, c'est que le vote sera serré.
Maïalène Trémollet pour Europe 1. Dans un autre registre, ce matin, on suivait le concours de l'Eurovision et énorme désillusion pour Louane. Avec 230 points, la Française termine 7e de cette 69e édition qui se déroulait à Bâle, en Suisse. La jeune femme faisait pourtant partie des favoris avec sa chanson « Maman ». Et c'est finalement l'Autrichien Gigi qui remporte le concours devant Israël, qui a obtenu 300 points d'un coup grâce au vote du public. On notera que l'Azerbaïdjan n'a pas attribué 2 points à la France, mais a donné 12 points, soit le maximum à Israël. C'est la troisième fois que l'Autriche gagne l'Eurovision. La dernière fois, c'était en 2014 avec Conchita Wurst. Enfin, une grande absente lors de cet événement, la chanteuse Céline Dion, longtemps pressentie, la star québécoise gagnante de l'Eurovision 1988 pour la Suisse avec son titre « Ne partez pas sans moi », ne sera finalement pas montée sur scène. À l'étranger, l'offensive de l'armée israélienne contre le Hamas qui s'accélère à Gaza, annonce de Tsahal ce matin qui parle de frappe d'envergure. De son côté, un haut responsable du Hamas a déclaré qu'un nouveau cycle de négociations indirectes avec Israël pour mettre fin à la guerre avait débuté au Qatar et ce, sans aucune condition préalable. Dans le dossier ukrainien, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s'est entretenu la nuit dernière pour nous par téléphone avec son homologue américain Marco Rubio. Sergueï Lavrov qui reconnaît, je cite, « le rôle positif des États-Unis pour inciter Kiev à accepter la proposition de Vladimir Poutine de reprendre les discussions d'Istanbul ». Fin de citation. Et on apprend donc que Donald Trump va s'entretenir ce lundi avec Vladimir Poutine. Quels sont les enjeux autour de cet échange entre les deux présidents? Écoutez l'analyse de Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales.
Tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que Donald Trump en a assez de voir négocier sans résultat avec Vladimir Poutine. Il regrette ce qu'il appelle le bain de sang. Il veut y mettre un terme. Il veut montrer qu'il est capable d'obtenir, à défaut d'une paix durable, un cessez-le-feu. Donc, c'est tout l'enjeu de cet entretien. Peut-être y aura-t-il des menaces encore, effectivement, de sanctions économiques et financières. Peut-être plus de pression sur le plan militaire. Donc, c'est peut-être ça qui pourrait faire pencher la balance. Voilà quelles sont les pistes envisageables. Sans doute va-t-il demander à Vladimir Poutine de faire un effort sur un cessez-le-feu et lui dire que l'Ukraine restera neutre et n'intégrera pas l'OTAN.
Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Et le président américain s'entretiendra ensuite avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans le centre des États-Unis, au moins 25 morts suite à des violentes tornades qui ont secoué hier les États du Kentucky et du Missouri. D'importants dégâts matériels ont également été recensés, notamment dans la ville de Saint-Louis, et des dizaines de milliers de personnes sont toujours sans électricité. Un mot d'actualité dans la région, située à environ 700 km au nord d'Adélaïde, la capitale de l'Australie méridionale. Le lac Eyre est en train de se remplir lentement grâce aux eaux de pluie qui ont causé des inondations catastrophiques dans le Queensland en début d'année. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Ces inondations avaient recouvert 13 millions d'hectares de pâturage et causé la mort de plus de 100 000 têtes de bétail. Leurs eaux se sont maintenant retirées du Queensland et ont entrepris un long périple intérieur qui va les conduire lentement en direction du lac Eyre, une vaste dépression naturelle d'Australie méridionale de 9500 km de superficie qui a la particularité de se situer à environ 15 mètres au-dessous du niveau de la mer. Son remplissage, le quatrième en 160 ans, va durer jusqu'en octobre et va surtout y attirer des millions d'oiseaux migrateurs, dont certains viendront même de Chine et du Japon. Ceci sans parler de la faune volatile australienne qui va en profiter pour s'y multiplier. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Midi 18, dernière pause avant de revenir à l'actualité sur le territoire et de voir tout le sport.
Pour la fête des mères, offrez-lui un bijou Créator. Joaillerie, or, argent, perles, coup de cœur. Créator, c'est plus de 4000 références et 3 boutiques à votre service. Alma, 7e kilomètre et Païta. Créator, le plus grand choix de bijoux de Nouvelle-Calédonie.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
Laisse-moi dédier cette chanson pour maman.
Du 19 au 23 mai sur Radio Rythme Bleu, chantons les mamans. Pour participer, c'est facile. Dès que retentit le signal jeu Chantons les mamans, vous appelez RRB au 25 46 46. Le premier auditeur ou la première auditrice, enfant ou adulte, qui chante une belle chanson pour sa maman en direct, gagne un cadeau offert par nos partenaires Creator, Factory Store, Happy Flower, Livre un instant parfumé, des stations Shell et Pacifique. Chantons les mamans, c'est du 19 au 23 mai sur RRB.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de votre journal, on retrouve Léana Colombo.
Et l'actualité sur le territoire, clap de fin pour le salon de l'Association des métiers d'art calédonien. Depuis jeudi déjà, une vingtaine d'artistes et artisans sont rassemblés à la Maison des artisans de Nouville, Charlotte Coulson.
Plus qu'une semaine avant la fête des mères, les artisans ont su profiter de l'occasion pour sortir leurs plus belles créations. Pendant 4 jours, les Calédoniens ont fait le tour des stands. Entre bougies parfumées, poteries, couteaux personnalisés ou jeux de société, il y avait le choix pour ravir les mamans. Le public était au rendez-vous. C'est un beau coup de pouce pour le monde de l'artisanat, selon la présidente de la MAC, Marion Allegro.
On sait que le monde de l'artisanat a perdu un petit peu pied depuis le début de l'année, mais on tend à se renouveler et à se découvrir aux yeux de tous. Alors effectivement, on a plus de 10 nouveaux exposants en fait dans les salles. On va avoir autant des exposants qui font de la bijouterie que de la ferronnerie, que de la faïence. Des gens qui ont arrêté l'artisanat, qui reprennent maintenant. Oui, je pense que ça permet aussi de se dire que l'artisanat n'est pas perdu, que l'artisanat tend son cœur à vous faire plaisir finalement. On a 12 corps de métiers représentés ici, donc c'est vraiment des pluridisciplinarités qui sont présentes et qui sont là pour être belles et être admirées par tout le monde.
Le salon de la MAC est fini depuis midi et si vous n'avez pas encore trouvé votre cadeau, la Chambre de métiers de l'artisanat organise elle aussi son salon vendredi et samedi prochain au même endroit mais avec de nouveaux artisans.
On passe au sport maintenant avec du football. La 34e et dernière journée de Ligue 1 a livré son verdict pour les clubs à la lutte en haut et en bas du classement, Michael Juneski.
Et le FC Nantes reste dans l'élite. Après sa victoire sur la lanterne rouge, Montpellier 3-0. Les Nantais d'Antoine Comboiré terminent à la 13e place devant Angers et surtout Le Havre qui s'est sauvé in extremis contre Strasbourg en s'imposant 3-2. Mais l'avenir du coach calédonien reste toutefois incertain avec les Canaries, selon la presse sportive. Antoine Comboiré reste lié au FC Nantes jusqu'à 2026, sauf si les dirigeants choisissent une nouvelle orientation. De son côté, Reims chute à la 16e place après sa défaite 2-1 à Lille. Une 16e place synonyme de barrage pour se maintenir en première division. Et Saint-Etienne coule contre Toulouse 3-2 pour être relégué en Ligue 2 la saison prochaine, tout comme Montpellier, la lanterne rouge. En haut du classement maintenant, Nice a largement battu Brest sur le score de 6-0 pour gagner sa place en barrage de la Ligue des Champions. Le capitaine de l'OGC Nice, Dante, se réjouit de ce beau finish qui ouvre la fenêtre à une campagne en Champions League.
C'est un cadeau Didier, on va dire. Sincèrement, je pense même pas trop moi. Je pense que j'aimerais bien être là quand le club participe. Parce que depuis que je suis arrivé, je tiens ça à cœur tous les ans de rêver de se qualifier en Ligue des Champions. Et voilà, ça va me faire chaud au cœur. J'aurai beaucoup d'émotions si on arrive à le faire parce que je pense que écouter la belle musique là à l'intérieur avec le Stade Plein, ça va faire partie d'un rêve que j'ai depuis que je suis arrivé.
À Lille, on le disait, vainqueur de Reims, se contentera de son côté de la Ligue Europa en terminant à la 5e place. Et l'Olympique Lyonnais des barrages de la Ligue Europa Conférence après sa victoire sur Angers 2-0 pour la dernière de la casette avec le maillot lyonnais. Encore des résultats, Lens qui l'emporte sur le terrain du 3e, Monaco 4-0. Et cette annonce, l'entraîneur des 100 et or quitte le club. Will Steele annonce prendre du recul et laisse donc sa place de coach des Lensois. Encore des résultats, le PSG qui a célébré son titre en battant les Auxerrois sur le score de 3-1 au Parc des Princes. Et Marseille, le deuxième de la Ligue 1, l'a emporté sur Rennes 4-2. L'occasion pour le Vélodrome de rendre une belle ovation à son ancien gardien qui évoluait désormais sous les couleurs des Bretons, Steve Mandanda.
Et le rugby avec la 24e journée du top 14.
Et l'Union Bordeaux-Bègles, deuxième du championnat de France, qui a battu Castres sur le score de 34-29. Clairement de son côté s'est imposé sur Perpignan 31-13. Bayonne s'est imposé face à Vannes 38-32. Victoire également de Pau sur Toulon 25-21. Le Stade français s'est imposé de peu, là encore, sur Lyon 31-30. Et enfin, le leader du top 14, Toulouse, s'est incliné, là encore, au terme d'un match très serré face au Racing 92. Victoire des Racingmen sur le score de 37-35. Encore une affiche à venir demain matin. La Roche Rochelle retrouvera Montpellier à partir de 6h05 pour nous.
Et on passe au sport mécanique.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La F1 avec les qualifications du Grand Prix Émilie-Romagne en Italie.
Et l'Australien Oscar Piastri sur McLaren qui a signé la pole position. Il a devancé la Red Bull de Max Verstappen et la Mercedes de George Russell, troisième meilleur chrono. Côté français, Isaac Hadjar s'est classé 9e. Pierre Gasly arrive juste derrière à la 10e place. Tandis qu'Esteban Ocon, victime de gros problèmes sur sa Haas, ne s'est classé qu'avec le 18e temps de référence. Grosse frustration pour Esteban Ocon, on l'écoute.
On va bien bosser pour essayer de comprendre, pour pas que ça revienne, mais voilà, je pense que, en tout cas pour ma part, on mérite d'être là où on est malheureusement. On a tout bien préparé comme on devait le préparer, on a prévu à peu près tous les scénarios et c'est vraiment voilà, des soucis qui ne devraient pas avoir lieu, qui ont lieu, donc voilà, il faut qu'on soit meilleur sur ce point-là.
Le Grand Prix Émilie-Romagne sera à suivre ce soir. Le départ sera donné à minuit, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Et Mickaël, encore du sport sur la scène nationale et internationale en bref.
Le rallye du Portugal tout d'abord avec le français Sébastien Ogier qui prend la tête du classement à la suite d'un souci mécanique de l'estonien Ott Tänak. Ogier, au volant de sa Toyota, compte désormais 26 secondes d'avance sur son coéquipier, le finlandais Kalle Rovanperä. Il reste encore 6 spéciales à courir ce soir. Du tennis et l'italienne Yasmin Paolini qui triomphe de l'américaine Coco Gauff en finale des Masters 1000 de Rome. Victoire 6-4, 6-2. Ce soir, la finale, messieurs, se jouera entre Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. En cyclisme, la 8e étape du Giro, le Tour d'Italie, remporté par l'Australien Luke Plaip. Au classement général, l'Italien Diego Ulissi a pris le maillot rose à Primoz Roglic, le Slovène rétrogradé en 3e position. Et puis, il y avait aussi de la boxe ce dimanche matin avec le retour sur le ring de Tony Yoka. Le poids lourd français s'est imposé face au Russe Arslan Yaliev au point à l'unanimité des juges. À l'issue d'un très rude combat. Absent des rings depuis septembre dernier, le médaillé d'or des JO de Rio 2016 a retrouvé sa détermination avec donc ce 3e succès de suite face à un adversaire classé à la 38e place mondiale.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
En Calédonie, du cyclisme avec le Grand Prix Roger Larocque qui se déroule ce dimanche matin dans Ducos.
Un critérium sur un circuit urbain qui plaît particulièrement aux participants et notamment à la nouvelle génération de coureurs. Près de la moitié des effectifs engagés aujourd'hui sont des jeunes. À l'image de Colin Laurent de l'ECV, il s'est imposé chez les moins de 15 ans.
Franchement, c'était bien. Tout le monde était bien. Tout le monde a donné tout. Puis voilà quoi. Faut bien prendre les roues pour pas ramasser tout le vent. Puis ben voilà, c'est un circuit assez facile vu qu'il n'y a pas de montée. Puis voilà quoi.
Tout à la vitesse.
Voilà, c'est ça. Tout le monde est content de se revoir. Tout le monde est content de faire une compète pour tous se réunir.
Une épreuve qui se déroulait sur un circuit rapide. En effet, le critérium Roger Larocque, épreuve phare du calendrier du cyclisme sur route, était mis en place par le club du VCC Mont-d'Or.
Et encore des événements sportifs.
Le trail de la SNSM qui se déroule aujourd'hui à la Tontouta. 950 coureurs étaient au départ de ce trail des sauveteurs en mer. 3 parcours proposés, on le rappelle, au départ de la mine Tontouta, dont un grand raid de 13 km et un mini raid de 8 km. Du football, les résultats des premiers matchs de la Super League. Et cette large victoire de l'AS Magenta sur l'AS Lossi hier au stade Nouma Dele. Score final 5-0 en faveur de l'ASM. Toujours à Nouméa, Tigasport a dominé l'AS Gaïcha à 2-0. Au stade Boeva du Mont d'Or, le CA Saint-Louis a terminé face à l'AS Cougnier sur un match nul de but partout. Enfin, Yengensport l'a emporté 4-1 sur l'AS Mont d'Or.